France Inter, 7h30. Et là, c'est le journal de Sébastien Legeni. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une nouvelle soirée de tension hier à Dijon. Poubelles, voitures incendiées par des hommes cagoulés et armés. La ville est en proie depuis ce week-end à des violences entre habitants des quartiers et la communauté tchétchène sur fond de trafic de drogue. Reportage sur place dans un instant. Les blouses blanches redescendent dans la rue aujourd'hui. Des manifestations autorisées, mais à condition de respecter les gestes barrières. Précision à suivre. À suivre également le petit coup de pression de Jean-Michel Blanquer sur les enseignants à une semaine de la reprise obligatoire. Le jugement très attendu dans l'affaire des kits de campagne du Front National et l'Inde qui se reconfine en partie dépassée par l'épidémie de Covid qui ne passe pas.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
France Inter.
Direction la ville de Dijon, Sébastien, pour commencer. Dijon encore marqué hier par des scènes de violence spectaculaires.
Quatrième soirée de tension consécutive. Hier soir, ce sont des habitants masqués, armés de barres de fer et d'armes de poing qui sont sortis dans les rues pour défendre, disent-ils, leur quartier. Le quartier des Grésilles, pris d'assaut ces derniers jours par des Tchétchènes venus de toute la France. Attaque, représailles. Le tout suite à un règlement de compte encore inexpliqué, du jamais vu dans la capitale de la Bourgogne. C'est le reportage sur place de Thomas Nougaillon.
Après les trois raids menés par les représentants de la communauté tchétchène, certains de ces habitants des Grésilles ont expliqué vouloir défendre leur quartier. Ils ont tiré sur des caméras de vidéoprotection. Des poubelles et plusieurs véhicules ont été incendiés. Ryan, 21 ans, constate les dégâts sur l'un d'entre eux.
Là, on voit une Mercedes de luxe qui est en train de brûler. Toute la voiture est en train de s'embraser. Le plafond, elle est complètement en feu là. Ouais.
Le 10 juin dernier, un Tchétchène âgé de 16 ans aurait été agressé par des dealers. C'est pour le venger qu'une centaine de ses compatriotes venus de toute la France ont déferlé sur Dijon, explique Jacqueline et Clémentine, deux habitantes du quartier.
Apparemment, ce serait un règlement de compte pour de la drogue.
Un jeune Tchétchène qui est d'ici. Voilà,
qui devrait de l'argent à un dealer de drogue apparemment. Et du coup, ça a dégénéré avec tous les dealers du quartier.
Clément a traversé la place Galilée un peu plus tôt dans la journée. Il est sidéré par ce qu'il a vu.
Devant le bureau de tabac, moi j'ai vraiment vu un mec faire avec son fusil à pompe, comme ça, vraiment un bruit impressionnant quoi.
Vers 20h30, 60 gendarmes mobiles ont repris le contrôle de la place Galilée. Une démonstration de force des habitants du quartier des Grésilles, alors qu'aucun Tchétchène n'a été aperçu ce lundi à Dijon.
Thomas Nougaillon de France Bleu, Bourgogne. Bilan ce matin, une quinzaine de blessés. Trois journalistes de France 3 molestés. Une enquête ouverte, mais pas d'interpellation. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, doit se rendre sur place aujourd'hui.
Les blouses blanches, Sébastien. Il est 7h32. De retour sur le pavé aujourd'hui.
Médecins, aides-soignants et infirmiers sont appelé à manifester un peu partout en France afin de rappeler ses promesses, notamment salariales, au gouvernement qui négocie en ce moment avenue de Ségur. Plus de 220 rassemblements sont prévus. Des rassemblements autorisés malgré la crise du Covid. La liberté de manifester a été rétablie depuis ce week-end par le Conseil d'État. Une liberté toutefois sous strictes conditions sanitaires, Corinne Audouin.
La loi sur l'état d'urgence sanitaire avait interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique. C'est cette interdiction totale, jugée disproportionnée, que le Conseil d'État a levée samedi. Présentant cette décision, le gouvernement avait déjà réfléchi à un nouveau dispositif publié dès dimanche dans un nouveau décret. Le texte crée un nouveau régime pour les manifestations, celui de l'autorisation préalable. Désormais, il faut non seulement déclarer sa manifestation, mais aussi en préciser les conditions sanitaires pour garantir le respect des mesures barrières. Ainsi, pour la manifestation des soignants, cet après-midi à Paris, la préfecture de police précise que les déclarants se sont engagés à ce que les conditions d'organisation permettent une distance physique d'un mètre entre chaque participant et, en cas d'impossibilité, à demander aux participants de porter un masque. Ce qui signifie que chaque préfet pourra, au cas par cas, autoriser ou non une manifestation s'il estime que les conditions sanitaires ne sont pas remplies.
Corinne Audouin, on le sait depuis les annonces du chef de l'État dimanche, l'école sera donc de nouveau obligatoire à partir de lundi prochain. Le protocole sanitaire va être assoupli, les détails seront connus aujourd'hui. On sait déjà que la règle des 4 mètres carrés par enfant est supprimée, remplacée par un espace d'un mètre à droite et à gauche de chaque élève. Un casse-tête de plus pour les enseignants et le ministre de l'Éducation nationale en a conscience. Il a donc envoyé cette nuit à
tous les professeurs une vidéo en forme de remerciement, mais aussi en forme d'incitation à reprendre rapidement le chemin de l'école.
Chers professeurs et chers personnels de l'éducation nationale, aujourd'hui est un jour très important parce que c'est le début d'une nouvelle phase depuis le début de la crise sanitaire. En effet, la présence des élèves est obligatoire. Ce principe, celui de l'instruction obligatoire, nous y sommes viscéralement attachés. Sauf avis contraire de votre médecin, vous allez donc pouvoir retrouver votre classe et vos élèves si vous enseignez à l'école et au collège, et vous allez les retrouver personnellement dans des entretiens individuels si vous travaillez au lycée. Rien ne remplacera jamais l'enseignement en présence, et il est bon de retrouver désormais cette présence pleine et entière. Chaque jour d'école compte. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. Je vous remercie.
Voilà pour le petit coup de pression du ministre de l'Éducation nationale. Les élections régionales prévues en mars 2021 vont-elles être reportées en 2022 après les présidentielles? Emmanuel Macron a ouvert le débat hier au cours d'un déjeuner avec les présidents de région. Un report, semble-t-il, en échange d'une aide financière, un chantage dénoncé par certains participants à la réunion. Le second tour des élections municipales prévues le 28 juin, lui, sera reporté en Guyane, en raison de la circulation toujours très active du coronavirus. À suivre aujourd'hui en politique, le jugement du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des kits de campagne du Front National aux législatives de 2012, des accusations d'escroquerie contre l'État qui pourraient valoir une lourde condamnation financière au parti de Marine Le Pen. Maxence Lambrec.
Combien cette affaire va-t-elle nous coûter? C'est la question du moment. Au RN, l'État parti civil réclame 11,5 millions d'euros, sans base juridique ni comptable, argue-t-il, mais si l'amende est aussi lourde, le RN fera appel, écrira à l'assassinat politique d'un mouvement déjà surendetté, incapable d'avancer une telle somme. Autrement, le parti espère vite tourner la page, puisqu'à leurs yeux, l'essentiel est préservé. Marine Le Pen est à l'abri, seuls ses amis risquent gros. 4 ans de prison requis contre son prestataire préféré Frédéric Chatillon, accusé d'enrichissement personnel. Des années d'inéligibilité, de la prison avec sursis requise contre le trésorier du parti Valrande Saint-Just et le député européen et juriste Jean-François Jalques. Pendant les 3 semaines de procès, la présidente du tribunal s'est montrée cordiale, parfois courtoise, toujours méthodique, sans aucune insinuation politique, ce qui rassure les prévenus. L'inquiétude, elle, reste forte chez les candidats RN au municipal. À moins de 2 semaines du scrutin, il se serait passé d'un tel jugement.
Maxence Lambrec. Marine Le Pen, pour sa part, doit se rendre jeudi sur l'île de Sein pour commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Une visite qui provoque l'indignation du maire et de ses habitants. Justice encore avec ce rapport d'expertise accablant contre la mairie de Paris dans l'affaire de l'explosion de la rue de Trévise. C'était en janvier 2019. Une conduite de gaz explosait, faisant 4 morts en plein 9e arrondissement. Le dernier rapport d'expertise pointe du doigt les services de la voirie responsables de ne pas avoir fait des réparations nécessaires. Eni, le fournisseur d'énergie italien, encore épinglé pour ses pratiques commerciales, facture inexacte, surestimation de la consommation. Le médiateur national de l'énergie a recensé un taux moyen de 329 litiges pour 100 000 contrats.
À l'étranger, 7h38, Pékin, Sébastien, sous haute surveillance sanitaire depuis 5 jours.
Depuis que l'épidémie de Covid refait surface en Chine, 27 nouvelles contaminations, plus d'une centaine de cas au total. On y revient dans le journal de 8h. L'inquiétude est encore plus grande en Inde, devenu le 4e pays le plus touché au monde, avec 350 000 cas et près de 10 000 décès. La contagion est particulièrement virulente dans les grandes villes. La mégalopole de Chennai, par exemple, dans le sud, et ses 15 millions d'habitants vont être reconfinés à partir de vendredi. La capitale, New Delhi, elle, est débordée. Reportage dans la capitale signé de notre correspondant Sébastien Farcy.
Les ambulances entrent en trombe dans Loknayak Jayaprakash, le plus grand hôpital public de New Delhi dédié au Covid-19. Sumita Sampal, un foulard bleu en guise de masque, est inquiète. Cela fait 10 jours que son mari a été hospitalisé, mais il n'a toujours pas les résultats de son test de Covid. Il avait la dengue, mais il suspectait aussi le Covid, dit-elle. Maintenant, il est enfermé dans cet hôpital et il me dit qu'il voit des cadavres de patients abandonnés. Je veux qu'il sorte, car s'il n'a pas déjà le Covid, il va l'attraper. Officiellement, seulement 40% des 2000 lits de l'hôpital sont occupés. Mais cette crise a créé de nouveaux problèmes, reconnaît Ritu Saxena, la coordinatrice de l'hôpital pour le Covid-19. Nous avons besoin de personnel, dit-elle, car avant, les familles des patients s'occupaient de leurs besoins quotidiens. Maintenant, on ne peut pas les laisser entrer, donc nous nous occupons de tout. Pour l'instant, la situation est sous contrôle, mais cela peut vite changer si des milliers arrivent chaque jour, comme on s'y attend. Les autorités estiment que le nombre de cas doublera en 2 semaines dans la capitale et prévoient de convertir des trains, des hôtels et des salles de mariage en hôpitaux de fortune. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Un nouvel avis négatif contre l'hydroxychloroquine. L'agence américaine du médicament a retiré hier l'autorisation d'utiliser en urgence ce traitement contre le Covid, un temps défendu par Donald Trump. Il n'est plus raisonnable, selon l'agence, de croire que ce médicament soit efficace contre le Covid-19.
Et on termine avec un objet devenu notre compagnon de route depuis le déconfinement, Sébastien, le masque sous toutes ses formes.
En tissu chirurgical, FFP2, bleu, blanc ou bariolé, obligatoire dans les transports, dans certains commerces. Les Français s'y sont habitués, ce masque qu'on a tant attendu, mais qu'aujourd'hui, on a pour certains de plus en plus de mal à supporter, au point qu'il y a un peu de relâchement. Boris Alli est allé le vérifier dans les rues de Paris.
Il y a ceux qui ne sortent jamais sans leur masque, à l'image de Pierre, 81 ans, qui le garde même dans la rue.
Quand je sors, j'essaie de me protéger parce que je suis âgé et je suis fragile.
Mais pour les plus jeunes, comme Yanis, c'est plus aléatoire.
En ce moment, il y a plusieurs personnes qui en meurent, du coup, il faut se protéger, quoi.
Et toi, t'as pas ton masque, là ?
Non, mais je le mets que dans le métro et le bus.
Une catastrophe, ce masque.
Marie-Josée, elle aussi, a du mal à s'adapter.
Quand on respire, il y a toute la buée qui monte, on voit plus rien, enlever les lunettes. Enfin, je pense que ça va durer longtemps encore.
C'est d'autant plus difficile de le porter lorsque l'on travaille sur un chantier. Didier est juché sur la benne de son camion, masque sur le menton.
Quand vous montez 40 mètres d'escalier, vous arrivez en haut, vous êtes vraiment essoufflé. On a l'impression de respirer plus du gaz carbonique que d'avoir l'oxygène. On l'enlève, on le retire, alors quand il y a du monde, on essaye de respecter quand même au mieux les consignes de sécurité.
Les consignes de sécurité, Jérémy les applique à la lettre. Dans sa boutique de cigarettes électroniques, port du masque obligatoire, mais la consigne n'est pas toujours respectée.
La meilleure anecdote que je peux vous proposer, c'est une cliente qui a dit « Pendant le confinement, je n'en ai pas mis, alors je n'en mettrai pas maintenant ». J'ai perdu beaucoup de clients qui refusaient de rentrer avec un masque, même gratuitement, mise à leur disposition.
Et pour l'Académie de médecine, les Français devraient porter le masque dans les espaces publics, au moins jusqu'à la disparition du virus.
Reportage de Boris Salier. Le tonnon bon, faites comme Nicolas Demorand, sortez masqué.
Merci Sébastien Legénie.